Merci. C'est dur de passer après tout ça, mais c'est tellement beau de voir l'œuvre de Dieu. Qui peut changer des vies comme ça? Mais qui peut le faire? Moi, je trouve ça vraiment tellement incroyable et pourtant vrai. On le voit de nos yeux. Vous imaginez la chance qu'on a, quoi. C'est pas du fake, quoi. C'est vraiment de... Voilà, c'est trop beau. Il n'y a que Dieu, le ressuscité, qui peut le faire. Et ce matin, j'aimerais juste, en quelques mots, donner un petit peu dans la Bible, pourquoi est-ce que les gens se font baptiser. Dans 1 Pierre 3:21, c'est écrit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Ça veut dire que le fait de se plonger dans l'eau, on ne devient pas saint pour autant. Mais l'engagement d'une bonne conscience, et ils l'ont tous bien dit, l'engagement d'une bonne conscience qui maintenant, d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve par la résurrection du Christ. Et je trouve que c'est beau parce qu'on voit que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Nous, on ne peut rien faire, mais Dieu peut le faire en nous. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire, comme je viens de le dire. Et dans Marc 16, 16, c'est écrit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Et donc, c'est ce que chacun d'eux, Catherine, Aurélie et Didier, ont fait ce matin. Ils ont cru, ils ont été baptisés, ils sont sauvés. Et dans la Bible, dans Matthieu 6, 33, c'est écrit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Et ce verset, il y a un chant dessus, et moi je me suis souvent demandé c'était quoi la justice de Dieu, pourquoi chercher la justice de Dieu. Et cette justice, ils en ont parlé plus ou moins de différentes façons. Il y a à la fois, comme a dit Catherine, le côté saint de Dieu qui ne peut supporter le péché et qui dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Mais la justice de Dieu, c'est que Dieu est également amour, ce qu'a découvert aussi Catherine, et qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. Voilà, c'est vraiment le but de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés, chacun de nous. Il n'y a pas personne qui est exclu. Le brigand sur la croix, Jésus lui a aussi tendu les mains pour lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et la justice de Dieu le pousse à envoyer Jésus payé sur la croix, en donnant sa vie pour que tous les hommes soient sauvés. Et hier soir, il y avait aussi une grande fête ici, il y avait un autel de louanges, et j'ai pu noter quelques bribes de ce qui a été partagé. Et il y avait le chant « Tu es mon bouclier, tu es ma forteresse ». Et je l'ai vécu de manière comme une révélation hier soir, « Tu es mon bouclier ». Et je ne sais pas si vous imaginez un bouclier qui est devant vous et qui empêche en fait que vous preniez les flèches, les coups de l'ennemi, oui, et ben c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il s'est placé devant nous comme un bouclier, comme un rempart pour pas que nous soyons touchés. Et la Bible nous dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous devions mourir par les conséquences de notre péché, mais Dieu a envoyé son Fils pour que nous puissions être sauvés. Et alors, on est dans le jour de la résurrection, donc c'est quelque chose de quand même, c'est une grande fête. Mais j'avais quand même envie, vraiment très très à cœur, de parler de la crucifixion. Et c'est vrai que pour les chrétiens, on a parlé pas mal depuis quelques temps, ces 3 derniers jours, de manière encore plus intense. Et j'avais quand même envie de relater ce qu'est la crucifixion. Et on voit beaucoup de crucifix en France, on en porte même parfois comme bijoux, on en entend parler, et à force qu'on en parle, on est dans un pays quand même chrétien, à force qu'on en parle, des fois le terme il peut perdre un petit peu de sa force, et on peut, pas le banaliser, mais peut-être enlever un petit peu la valeur profonde de ce qu'est ce sacrifice, cette crucifixion. Et la Bible, on parle de manière... assez succincte en fin de compte, et parce que les disciples, eux, ils étaient coutumiers également des crucifixions, donc ils n'ont peut-être pas jugé nécessaire de nous étaler grandement tout ce qui était la crucifixion. La Bible n'est pas non plus un livre médical, donc tous les détails ne sont pas mis, mais j'ai été voir, du coup, chercher, j'avais vraiment à cœur les souffrances de Christ, et j'ai été chercher sur Internet, et j'ai trouvé un texte écrit par un docteur le docteur Truman, qui analyse la crucifixion d'un point de vue médical. Et c'est vraiment assez, assez fort, poignant. Et j'avais juste envie de vous partager du coup quelques extraits, quelques moments. Il y a 8 temps forts. Je vais demander à Benjamin s'il peut venir. Et j'aimerais vous encourager à ne pas être spectateur, mais je voulais au départ mettre un PowerPoint avec différents tableaux. Il y a tellement des beaux tableaux de la crucifixion et ainsi de suite. Mais au contraire, en fait, je crois que j'ai envie de vous demander, de vous encourager à fermer les yeux et à juste écouter et à vraiment réaliser ce que le Christ a fait pour vous. C'est pas une présentation des souffrances dans le but de faire une démonstration des souffrances, mais c'est plutôt une démonstration de l'amour de Christ, l'amour que Christ a eu pour vous. Et je veux que vous gardiez aussi en mémoire, j'ai un témoignage d'un fils de pasteur, le pasteur Kadi, et qui raconte souvent ce témoignage que sa maman était Alzheimer. Et elle se rappelait même plus, ils sont plusieurs frères, elle se rappelait même plus des prénoms des frères, elle les confondait entre eux. Et un jour, elle a eu cette image de la couronne d'épines qui est rentrée dans la tête de Jésus et du sang qui a coulé. Et à ce moment-là, elle a réalisé que c'était pour ses soucis de mémoire que le Christ était mort à la croix, qu'il avait été percé et elle a été guérie instantanément. Voilà. Et on sait aussi qu'au moment de la crucifixion, au moment de la mort de Jésus, il y a des guérisons qui ont eu lieu, il y a eu des résurrections. Donc je vous encourage vraiment à vous positionner dans cette écoute et à vraiment prendre ce cadeau que Jésus a fait pour vous. Ces 8 temps de souffrance que je vais vous relater maintenant. Donc le premier temps, c'est Gethsémané, là où les grumeaux de sang ont coulé. La passion du Christ a commencé à cet endroit, lorsque Jésus a intercédé pour les coupables et que le poids du péché a été placé sur ses épaules. Dans 1 Pierre 2, 24, c'est écrit « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Luc, le médecin des disciples, est le seul à mentionner les grumeaux de sang. En Luc 22, 44, c'est écrit « Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Bien que très rare, le phénomène d'hématitrosis ou sueur de sang y est bien décrit. Sous le coup d'une forte angoisse, les capillaires minuscules des glandes sudoripares peuvent éclater, provoquant ainsi le mélange de la sueur et du sang. Ce processus lui-même aurait pu provoquer une importante faiblesse et un état de choc. Comme le dit le livre aux Hébreux 5, verset 7, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Le deuxième moment d'intense souffrance, c'est les coups de poing et les humiliations. Après son arrestation, vers le milieu de la nuit, Jésus comparaît devant les responsables religieux, le Sanhédrin, Caïphe et le souverain sacrificateur. C'est là que le premier traumatisme physique lui est infligé. Un soldat le gifle parce qu'il est resté silencieux quand Caïphe l'a interrogé. Les gardes lui voilent le visage et se moquent de lui. Il lui demande de les identifier tandis qu'il passe devant lui, lui crache dessus et le frappe. Tôt le matin, battu, meurtri, déshydraté et épuisé par une nuit sans sommeil, il allait être flagellé. C'est le troisième temps de souffrance que le Seigneur a vécu, la flagellation. La préparation avant la flagellation consistait à enlever les vêtements du condamné et à attacher ses mains à un poteau vertical au-dessus de sa tête. Le condamné est ensuite flagellé de l'arrière par un ou deux soldats qui se relaient. On peut imaginer que la flagellation de Jésus a été particulièrement sévère. Le nombre de coups de fouet n'est pas reporté. Est-ce qu'il a été limité à 39, comme le voulait la loi juive ? Il est douteux que les soldats romains l'aient respecté. Comme le dit Ésaïe 53, verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert sa bouche. Le fouet utilisé est un petit fouet qui se compose de plusieurs lourdes lanières de cuir, avec deux petites boules de plomb attachées à l'extrémité de chaque lanière. Le soldat frappait de toutes ses forces sur le dos, les épaules et les jambes du Seigneur. Au début, les lourdes lanières ne font que lui déchirer la peau. Puis au fur et à mesure que les coups continuent, il déchire plus profondément les tissus. Le sang se met alors à suinter des capillaires et des veines. Et finalement, le sang des artères se met à jaillir des muscles. Les petites boules de plomb causent des larges et profondes hématomes qui éclatent sous les coups répétés. Pour finir, la peau du dos se met à pendre en longs lambeaux et devient une masse méconnaissable de tissus déchirés et sanglants. Ésaïe dit, dans Ésaïe 52,14, « De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Quand le centurion juge que le prisonnier est presque mort, il fait cesser les coups de fouet. Jésus a dû perdre plus d'un litre de sang. À moitié évanoui, alors qu'on l'a délié, il a dû s'effondrer sur le sol, mouillé de son sang. Quatrième moment, le déguisement du roi. Les soldats romains trouvent que ce juif de province qui se dit roi est un bon sujet de plaisanterie. Ils jettent un manteau de pourpre sur ses épaules et mettent un roseau dans sa main en guise de sceptre. Il leur manque une couronne pour compléter le déguisement et ils tressent quelques tiges flexibles recouvertes de longues épines en forme de couronne avant de la lui enfoncer sur la tête. Le sang se met à nouveau à couler en abondance. La tête est en effet une des régions du corps les plus riches en vaisseaux sanguins. Après s'être moqué de lui et lui avoir donné plusieurs gifles, les soldats prennent le roseau de sa main et le frappent sur la tête pour enfoncer profondément les épines. Cinquième temps de souffrance, la tunique arrachée. La tunique était déjà collée au caillot de sang et de sérum des plaies. En l'arrachant, les soldats provoquent une atroce douleur, semblable à celle que l'on éprouve lorsque l'on enlève un pansement sans précaution, sauf qu'ici la plaie est béante et recouverte et recouvre tout le haut du corps. Ses blessures se remettent à saigner comme s'il était fouetté de nouveau. Après tous ses coups, ses blessures, ses humiliations et privations d'eau, même avant la crucifixion, l'état de santé de Jésus était très critique. La montée vers Golgotha, sixième temps. Les Romains lui remettent ses vêtements, lient la lourde poutre supérieure de la croix sur ses épaules, sur les épaules du crucifié. Le bois brut pénètre la peau lacérée et les muscles de ses épaules. La procession du Christ condamné, des deux brigands et de la troupe de soldats romains commence. Jésus tente de marcher droit, mais le poids de la poutre et la commotion et les commotions consécutives à la perte de sang sont plus que Jésus ne peut le supporter. S'il tombe au sol, et c'est probablement ce qui s'est passé, Jésus ne peut s'amortir avec ses bras car ses mains sont liées à la poutre. Le poids de la poutre de 20 ou 30 kilos l'écrase au sol, le visage à terre. Ésaïe 53, 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le cortège arrive à Golgotha, qui signifie calvaire. À cet endroit, Jésus a dû être projeté dos au sol. Ses vêtements ont été ôtés, on ne sait pas s'il était complètement nu, mais cela est fort probable, car cela ajoutait une humiliation supplémentaire. On offre à Jésus du vin mêlé de myrrhe, un léger mélange analgésique pour enlever un peu de douleur. Il le refuse. Son sacrifice fut entier et il choisit de boire entièrement la coupe de la souffrance. On a étendu Jésus au travers du bois qu'il a porté, le patibulum. On a encloué une main, puis on a tiré un peu sur l'autre avant de l'enclouer également. La poutre supérieure est alors mise en place au sommet de la poutre verticale. Un écriteau portant l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » est placé sur la croix. Ensuite, le pied gauche est plaqué contre le pied droit et les deux pieds tendus sont positionnés orteils vers le bas. On enfonce un clou dans la voûte de chacun d'eux en laissant les genoux légèrement fléchis. La victime est maintenant crucifiée. Jésus s'affaisse lentement et tout son poids se porte sur les clous des poignets. Une douleur atroce se propage dans ses doigts en passant par ses bras pour exploser dans son cerveau. Les clous dans les poignets font pression sur les nerfs médians, donc qui se retrouvent à ce niveau-là. À mesure qu'il se redresse pour éviter cette douleur lancinante, il reporte tout son poids sur les clous enfoncés dans ses pieds. Il ressent alors à nouveau la terrible souffrance du clou qui déchire les nerfs entre les métatarses des pieds. C'est la mort la plus douloureuse jamais inventée par l'homme. Jésus va alors attaquer une longue agonie qui va l'amener à la mort. Ses bras, poignets et épaules sont déboîtés par l'effet du poids du corps. Les luxations de ses membres supérieurs ont eu pour conséquence d'allonger ses bras de 20 cm de plus que la normale. Dans Psaume 22,15, c'est écrit « Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. » Le poids de son corps sur ses membres supérieurs a entraîné des forces de traction sur les muscles appelés grands pectoraux de sa cage thoracique. Ces forces de traction sur sa cage thoracique l'ont tiré vers le haut et vers l'extérieur dans une position loin d'être naturelle. Sa cage thoracique était en permanence dans une position d'inspiration respiratoire maximale. Pour expirer, Jésus avait besoin de toute la force de son corps. Il a dû pousser vers le bas sur les clous plantés dans ses pieds pour soulever son corps et permettre à sa cage thoracique d'effectuer les mouvements nécessaires pour expulser l'air de ses poumons. De manière spasmodique, il fut capable de se soulever pour inhaler et exhaler l'oxygène qui le maintenait en vie. À la différence de tout ce que l'on peut voir dans les films, la victime était très active. Physiologiquement, elle devait se hisser et se détendre sur la croix sur une longueur d'environ 30 cm afin de respirer. Le processus de respiration causait une douleur atroce amplifiée par l'angoisse absolue que crée l'asphyxie. La figure du Seigneur a rougi, s'est violacée, une forte sueur coule sur son visage et sur tout son corps. Durant les heures que dura la crucifixion, Jésus a été de moins en moins en mesure de porter son poids sur ses jambes, car il était de plus en plus épuisé. Les muscles des membres inférieurs de Jésus ont développé des crampes atroces suite à l'effort de traction sur ses jambes, figées dans une position anatomique terrible. De plus, la foule, les chefs juifs, le mauvais larron, juraient à ses côtés et se moquaient de lui et disaient « Si tu es fils de Dieu, tu n'as qu'à descendre de ta croix !» Sa propre mère assistait à tout cela. Parce qu'il ne pouvait pas maintenir une ventilation adéquate de ses poumons, il était normalement dans un état d'hypoventilation et son niveau d'oxygène dans le sang se mit à chuter. Il a développé une hypoxie, son niveau de dioxyde de carbone dans le sang a commencé à augmenter. Cette élévation du niveau de CO2 conduisit son cœur à battre plus vite afin d'augmenter l'apport d'oxygène et l'élimination du CO2. Jésus s'est mis à haleter. Ses réflexes physiologiques l'ont poussé à prendre des respirations plus profondes, ce qui l'a amené à effectuer des mouvements involontaires plus rapides sur la croix, en dépit de la douleur. Ces mouvements atroces se sont faits spontanément, plusieurs fois par minute, à la grande joie de la foule qui se moquait de lui. Tous les disciples, sauf Jean, l'avaient abandonné, ils étaient absents. Dans Psaume 22,15, c'est écrit « Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Le texte est encore long, mais je vais écourter. Mais vers midi, le cœur de Jésus a commencé à défaillir. C'est durant ce long supplice qu'il a pu prononcer sept courtes phrases qui sont notées dans les évangiles. Je n'en donnerai qu'une seule, par manque de temps, mais vers 15h, il a prononcé, certainement en murmurant, « Tout est accompli. » Tout est accompli. Sa mission d'expiation du péché est complète. Il peut laisser son corps mourir après avoir remis son esprit entre les mains du Père. Il poussa un grand cri et expira. Je lis dans Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est victorieux. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et Dieu, c'est écrit dans Philippiens 2, 9 et 10, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Louange, honneur, gloire, puissance, sagesse, richesse, force. 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 Oui, c'est ce que Jésus mérite, car il a remporté la victoire pour nous. Et ce matin, dans Ésaïe 61, parce qu'il a vaincu à la croix, et parce qu'il a vaincu sur la mort, parce qu'il est ressuscité, Jésus vous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre des bonnes nouvelles? Pas trop, mais le Seigneur Jésus vous donne une bonne nouvelle. Pour donner de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Et quand on voit Didier, on peut voir cette huile de joie. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors ce matin, on a pu voir ces baptêmes, entendre ces témoignages de ce que Dieu a fait. Mais ce n'est pas fini, parce que Dieu veut faire quelque chose aussi dans votre vie. Le Seigneur Jésus est aussi mort pour vous. Toutes ces souffrances que j'ai pu décrire, et vraiment avec des faibles mots, tellement plats par rapport à l'intensité de ce que Jésus a pu vivre. Mais tout cela, c'était par amour pour chacun de vous. Pour moi, pour vous, pour pas que vous soyez séparés de Christ. Il a été ce bouclier qui a pris tous les coups que nous méritions, parce que nous méritions la mort, parce que le péché nous entraînait à la mort. Mais il a pris les coups à notre place pour que vous puissiez avoir la vie, et la vie en abondance. Alors ce matin, est-ce que vous avez la vie en abondance? Et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à ne pas passer à côté de cette invitation qui est Pâques, la résurrection de Christ. Oui, c'est à la vie en abondance que Jésus vous appelle chacun. Chacun de nous, il nous appelle à la vie en abondance. Ce qu'il a fait dans la vie de nos trois baptisés, il veut le faire dans chacune de vos vies. Ne restez pas à regarder cette croix, mais venez vous aussi au pied de la croix dire: Seigneur, je veux goûter à cette vie, je veux moi aussi être au bénéfice de ta résurrection pour ma vie. Quel que soit le sujet de mort, quel que soit si c'est une maladie, si c'est peut-être des problèmes de couple, Aurélie partageait ça aussi, si c'est des problèmes, des addictions, peu importe, quel que soit le problème, le Seigneur Jésus a payé. Il a été ce bouclier qui a pris tous les coups pour ne pas que vous puissiez, que vous subissiez tout cela. Et le Seigneur vous appelle à la vie ce matin. Alors venez goûter à la vie. On va prendre ce temps pour prier pour les baptisés. Mais ne restez pas à côté de la vie en regardant les autres être heureux. Mais vous aussi, venez prendre part à cette joie. Vous aussi, comme a dit tout à l'heure Aurélie, venez déposer vos fardeaux. Venez déposer vos fardeaux et approchez-vous de la croix. Ça peut être, si ça peut vous aider, cette croix qui est juste là comme une représentation. Mais si vous le souhaitez, pendant qu'on va prier pour les baptisés, vous pouvez aussi vous approcher. On peut aussi prier pour vous. Il y a quelqu'un qui va venir, qui va se lever, qui va prier pour vous. Parce que Jésus veut vous libérer. Jésus vous a donné un rendez-vous ce matin. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour chacun de nous. Ne restons pas à côté de l'appel de Christ à la croix.
Je vous invite à la prière, juste qu'on puisse tous fermer les yeux. Je crois que le Seigneur veut toucher nos